Mon grand-père est né en 50. Il était soldat en 70. Il n'a pas fait la guerre parce qu'à cette époque, il y avait déjà 6 classes sous les drapeaux. Et là, la classe de 70 n'est pas partie tout de suite. Il était quand même vétéran en 70. Et il était violoniste vers ces années-là. Il a installé son bal à Montassuc. Peut-être pas, il était né à Montassuc. Il a installé son bal à Montbahut. Et puis sur les années 75-78, il était à Castillonès, où il a passé sa vie. Et le bal classique, la polka, mazurka, scottish, calri, les rondos surtout, tout ça, ça a passé le cap de la guerre de 14-18 et ça s'est éteint vers 1920. Enfin, c'est quelque chose que je n'ai pas précis pour laisser les rythmes américains prendre le pas avec le foxtrot et puis plus tard le charleston. Enfin, de ce bal classique qui commençait par une polka, par une mazurka, une scottish, puis une valse. Ça recommençait le cycle polka, mazurka, scottish, valse, et ça se termine au bout d'un certain temps par un entracte qui était le caril, après quoi les danseurs allaient boire. C'était organisé avec le cafetier du coin, qui s'embarquait ensemble. Et c'était le rythme du bal.
Le
rondo était placé, il y avait des rondos que les jours de bal de la campagne, c'est-à-dire les jours de bal de foire. Les jours de grand gala en ville, par exemple, enfin, à Castellet, ça se passait, ça. Le rondo était supprimé parce qu'il n'y avait que les gens de la campagne à cette époque, déjà, qui ne lançaient. Ça commençait déjà à être en perte de vitesse, ça. Enfin, les gens de la campagne, les jeunes de la campagne, dansaient encore le rondo. Il était passé, je ne sais pas trop, après là, entre la mazurka et la scottish, probablement, quelque chose comme ça.
Il
ne
savait pas comment il avait appris.
J'ai jamais su, lui, il avait dû apprendre ça par audition. Par tradition d'audition, hein. Il connaissait la musique assez peu, mais il avait appris par audition. Je vous ai raconté l'histoire de la valse brune que nous avions entendue à Bergerac à la foire en 1912. On l'avait retenu l'air. Arrivé à la maison, on l'a mis en musique et il l'a entré dans son répertoire. C'est comme ça que ça marchait. Tout ça, c'était des airs qui sortaient. Alors qu'un peu rondo, il en a arrangé, lui. Ça, je pense qu'il a dû être l'auteur, compositeur de quelques rondos. En particulier, il avait, certains l'arrangé beaucoup, mais il avait pris le fameux rondo. Il est né le divin enfant, il en avait fait un rondo pour Noël. Mais ça, c'était pas lui, il avait simplement arrangé un peu le rythme.
Il est mort en quelle année ?
Ah, il est mort en 1937. Il avait 88 ans.
Il a arrêté de jouer après l'époque.
Oh, il n'a jamais pratiquement arrêté, il jouait encore pour son propre plaisir, très ancien. Mais publiquement, les basses se sont arrêtées à peu près en 1920. Il lui est arrivé de jouer un jour de fête par-ci par-là, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Mais je suis même allé un jour avec lui chez un ami qui venait de se marier, il a fait le bal pour cet ami. Mais enfin, il ne jouait plus à partir de 1900. Après 1920, ça a été pratiquement fini. Et à ce moment-là, il avait déjà pas mal d'années, il s'est arrêté. Oui,
comment
il s'appelait Murat Bernard. Murat avec un C, pas avec un T. Son père ne vivait pas seulement de ses bals. Les bals, c'était quand même ce qui argentait, parce que les jours de foire, il y avait un bal qui rapportait de l'argent frais, de l'argent liquide et immédiatement utilisable. Mais en réalité, il faisait plusieurs autres choses, en particulier. Il était constructeur et inventeur et constructeur d'un pétrin mécanique pour les boulangers. Il avait été boulanger lui-même à l'origine, très jeune, et il avait rappelé, il s'est souvenu que le métier du boulanger était dur, le pétrissage en particulier. Alors il avait imaginé un pétrin mécanique qui pouvait s'actionner soit à la main, soit au moteur, mais à cette époque les moteurs n'étaient pas encore bien courants. J'ai connu le dernier moteur à chien, c'est-à-dire que à cette époque le moteur n'était pas très répandu. Il marchait avec la main, il montait le pétrin, on tournait les manivelles, et il en a vendu comme ça pas mal. Il en existe, je crois, encore en train de pourrir dans des vieilles boulangeries où on les a conservés. Il en existe encore quelques-uns.
La salle de bal a été à lui,
non ? La salle de bal n'était pas. Enfin, il l'occupait, mais c'était pas lui. Il n'a jamais eu la possibilité d'acheter une maison, parce que dans ses métiers, à cette époque, on ne gagnait pas assez d'argent pour s'acheter une maison. Il était locataire toute sa vie.
il faisait payer les entrées.
Ah oui, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère se tenait à la porte. On payait, attendez donc, je ne me rappelle pas si c'était 4 sous, 5 sous l'entrée, quelque chose comme ça, à cette époque. Et on payait en rentrant, et on avait, si on voulait sortir, on prenait un ticket, et mon grand-père, pour éviter les fuites avec les mauvais tickets, faisait chaque fois des tickets nouveaux. Je me rappelle le jour de foire, il prenait un bouchon, il le sculptait pour faire quelque chose qui ressemble à un coq, à un carré ou un rond, et il tamponnait le bout de carton, c'était bon pour la journée de la foire suivante, mais chaque fois il changeait le dessin, autrement les gens de la campagne qui n'avaient pas toujours les 4 cents si facilement pour retrouver les petits bouts de carton pour repasser la foire suivante. Voilà comment ça marchait, mais lui il faisait ça, et alors, et surtout il était fabricant de trains mécaniques, c'était encore son autre métier, il n'en avait point d'autre. Pour le reste, son plaisir, c'était la chasse. C'était un grand chasseur de lièvres. Il avait des chiens courants, je me rappelle encore, il avait des courants ou deux dans la maison. Et il était très réputé, d'ailleurs, comme le chasseur de lièvres. Il ne chassait que ça. Le lièvre, et aussi quelques lapins. C'est ça qui fait que j'ai mangé des cibles quand j'étais jeune.
Il jouait tout seul, là, ou...
Ah, il jouait tout seul, en principe, oui. Il jouait souvent tout seul. Et puis, il avait quand même, dans les jours de foire, alors il y avait un cornet à piston, qui venait l'aider, et quelquefois aussi un tuba. Ça faisait 3 musiciens, et il avait les partitions prêtes pour le tuba. Il y a eu à une époque un clarinettiste, qui était un bon clarinettiste, qui jouait aussi. Et puis sur la fin, alors c'est-à-dire dans les années après la guerre, moi-même j'ai participé, mon oncle qui était un bon musicien, un bon clarinettiste aussi, et souvent un ami venait avec le tuba pour le plaisir de jouer, simplement. Avec le pied. Quand il jouait seul, et même toujours, d'ailleurs par habitude, il cadençait avec le pied. Son pied faisait presque autant de bruit que son violon. Enfin, on entendait carrément, quoi. C'était la cadence. Ça, qui marquait. Parce qu'évidemment, c'est une musique essentiellement cadencée. À partir de 1918-19, l'accordéon a fait sa percée. Et je ne sais pas pourquoi. La désaffection s'est installée par, et c'est l'accordéon qui a pris le relais. Et puis surtout, c'est l'américain, le foxtrot, toutes les cadences rapides américaines qui ont remplacé les anciennes valses traditionnelles. Ça s'est passé comme ça, comme tout se passe, tout se perd, tout s'abandonne et tout se remplace. Commercialement, ça, oui. Ah, mon grand-père appelait les accordéons des chauffe-pieds. Ça signifie tout ce que ça voulait, c'était la forme aussi du chauffe-pied, c'est-à-dire la forme de même pas les bipèdes. Et ça lui a porté un très 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 grand tort, parce que pour une raison difficile à définir, son bal a périclité, toute la clientèle est allée avec l'accordéon, et puis ça s'est tombé comme ça, c'est mort de sa belle mort. En même temps, c'était remplacé, surtout par les rythmes nouveaux, les rythmes américains, c'était la porte qui venait ça.